This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy, and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only. Terms and conditions apply.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata à
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
On ne s'en lasse pas. Celui-là, on ne s'en lasse pas de jingle de l'after. 23h01 précisément. On est ensemble jusqu'à minuit. Tout à l'heure, il y aura le quiz. Vous nous appelez pour participer avec nous. Et puis, vous nous appelez aussi pour parler du VAR. Et ça, en général, on sait que ça fait très, très largement réagir. En voilà un autre de sujet clivant. On va donc parler du VAR sous un autre prisme que celui que l'on a l'habitude d'aborder ici. Nous, Français, on parle souvent de ce qui se passe en Ligue 1. La Première Ligue s'est dotée de la VAR depuis le début de la saison, chose qu'il n'y avait pas jusque-là. Et jusqu'à présent, on va dire que sur les premiers mois d'utilisation en Angleterre, ça s'était globalement bien passé jusqu'à ces remous du Boxing Day, Alexandre Distel.
Exactement, 5 buts refusés pour des hors-jeux se jouant à une poignée de centimètres. Alors voilà les raisons qui un peu déchaînaient le monde du foot anglais depuis quelques jours. Alors ces décisions ont notamment rendu fou les tabloïds anglais. Alors le Guardian parle de controverses liées au VAR que tout le monde jetterait à la poubelle. The Sun de son côté explique que le VAR a changé la Première Ligue en une risée. Et puis enfin, le Times parle de l'assistance vidéo comme d'une tueuse de passion. Et le problème est bien là pour tous les fans anglais, c'est qu'elle touche à l'essence même de leur championnat, c'est le spectacle. Alors cet avis, il est partagé notamment par le mythique attaquant des années 80, Gary Lineker, le consultant pour la télé anglaise, a publié sur Twitter un sondage pro-VAR ou anti-VAR. Et bien sur les 400 000 votants, 2/3 sont contre l'arbitrage vidéo. Et c'est un résultat qui en dit beaucoup parce que Lineker possède vraiment une aura importante en Angleterre. Lui-même d'ailleurs était pro-VAR avant de finalement changer d'avis.
Ce qui est bien avec les médias anglais, c'est qu'ils vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Ça balance, ah, les punchlines, ouais. Ça y va. On prend pas de pincettes. L'utilisation du VAR pourrait cependant changer, être modifié.
Oui, exactement, c'est ce qu'a annoncé l'IFAB tout à l'heure. En fait, la grande instance des règles du football a réagi aux différentes polémiques concernant ces hors-jeux pendant le Boxing Day. Son secrétaire général en fait expliquait que la VAR ne devrait intervenir que sur des situations claires et évidentes. Il affirme aussi que devoir regarder 15 angles de caméras différentes pour prendre une décision n'était pas l'idée initiale du VAR. Alors voilà une déclaration qui devrait faire plaisir à nos amis anglais. En tout cas, ces nouvelles orientations pourraient être adoptées dès l'Assemblée générale de l'IFAB en février prochain.
Alors messieurs, vous savez, vous avez vu ces images hein, cette semaine, je pense au but refusé à Wolverhampton contre Liverpool, il y en a eu d'autres, pour parfois un centimètre d'épaule d'un joueur qui est en mouvement, qui est dans sa position pour aller vers le but. Est-ce que vous avez l'impression que, et cette question s'adresse surtout à toi Damien, ancien joueur, que ce dispositif en Angleterre ou ailleurs, va dans le sens du jeu?
Déjà, il faut savoir que, j'ai parlé un peu de moi, quand je jouais en MLS, la première année où la VAR a été instaurée, et le premier championnat, c'était en MLS, et donc c'était les 6 derniers mois qui ont lieu, c'était la saison 2017, il me semble, avec la MLS. Et en fait, il y a dû avoir une adaptation, même de la part des joueurs, par rapport à cette VAR, parce que c'est-à-dire que tous tes gestes en fait sont contrôlés, et ce qui fait que toi même dans l'action, tu fais attention à tout ce que tu vas faire encore plus, c'est-à-dire en tant que défenseur, parfois tu peux avoir un peu de vis, tout ça, tu fais attention à toutes ces choses-là parce que tu peux vite être sanctionné. Ensuite, en ce qui concerne l'émotion que peut produire un but marqué et qui peut être entaché d'un hors-jeu ainsi de suite. En gros, même t'exploses jamais de joie vraiment tant que c'est pas validé par la VAR. Le problème aujourd'hui, c'est que chaque but doit être validé par la VAR alors que parfois il y a même pas question quoi, mais il y a toujours ce laps de temps, je trouve, qui coupe l'émotion. Ça coupe l'émotion que tu peux avoir en tant que joueur, ça coupe l'émotion que tu peux avoir en tant que supporter. Et c'est vraiment dommage qu'on perde ce
Mais là, on fait le procès de la VAR en général. Là, en revanche, la situation anglaise et sur la période du Boxing Day, elle est incluse dedans, mais elle est un petit peu plus particulière à des situations de hors-jeu exclusivement.
Mais alors, ce que tu dis, c'est quand même vachement important. Tu es en train de nous expliquer que quand tu as joué, la VAR a changé ton jeu.
Oui, il y avait alors parce qu'à l'époque en plus oui. il y avait l'exemple
un défenseur pour un attaquant,
ah ouais, il y avait l'exemple théorique. Des mains dans la surface et à cette époque-là lorsque c'était en MLS, c'était main ou pas main et c'était surtout par rapport au visionnage de la VAR. C'est-à-dire que parfois, c'est-à-dire qu'il ne prêtait même pas attention éventuellement à ce que tu avais fait avant avec ton bras qui pouvait être légèrement décollé. Ensuite, il ne prenait pas en compte non plus la vitesse à laquelle tu pouvais bousculer un adversaire, ainsi de suite. Toutes ces choses-là font qu'à la fin, l'adversaire, tu ne le touchais même plus de peur d'être sanctionné derrière ou une amplification sur les fautes, sur les pénalties. Parfois, il y avait des sanctions alors que le joueur tombe, mais il a le droit de tomber aussi sans que ce soit une simulation. Et donc, ça fait que tous ces comportements avaient radicalement changé.
Messieurs, Coady, le joueur de Wolverhampton, a fait une sortie après le match face à Liverpool en disant « On a mis un nouveau système dans le football et on n'a pas consulté les acteurs eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu une grosse erreur de la part du board de lancer ça peut-être de façon un petit peu rapide et sans consulter les acteurs que sont les joueurs, les entraîneurs, éventuellement les présidents, parce que ça a aussi des enjeux économiques?
Je pense qu'il aurait surtout fallu mieux préparer, et si tu veux le mettre, hein, parce que c'est une mauvaise idée de toute manière de base, mais il aurait fallu peut-être mieux préparer et mieux consulter les principaux intéressés qui sont les arbitres. Parce que s'il y a bien deux choses, on avait pensé à beaucoup de choses en fait sur la VAR, sur les méfaits que pourrait causer la VAR. La première, c'était de dire que c'était contraire à l'esprit du jeu, qui est d'accepter l'erreur d'arbitrage. Les erreurs d'arbitrage ont émaillé l'histoire du football. On en fait, pour certaines, la gloire et l'essence même du sport qu'on aime. Et la deuxième chose, c'est que ontologiquement, un arbitre et il ne juge pas. Il y a vraiment une différence de concept qui est très nette, à mon sens. C'est pas un juge comme au tennis, c'est un arbitre, et donc il doit laisser la place à son arbitraire, tout simplement. À son interprétation, qui est donc par essence arbitraire. Moi, le vice que je vois principal avec la VAR, c'est qu'en fait, la VAR, elle a créé, un phénomène qu'on n'avait pas anticipé, c'est sa surutilisation, qui en fait stimule et auto-alimente le manque de courage des arbitres. C'est-à-dire qu'en fait, la VAR est devenue une béquille pour ces arbitres-là qui n'arrivent plus à prendre leurs responsabilités, parce qu'on sait qu'eux aussi ont beaucoup de pression. La pression sur le terrain vis-à-vis des joueurs, la pression, dans notre cas en France, des notes qui tombent et qui font que, un tel ou un tel n'arbitrera plus la saison prochaine en première division. Et du coup, en fait, cette VAR qui devait être un outil, une aide, c'est devenu en quelque sorte une espèce de un vampire qui vampirise les comportements des arbitres et qui n'arrive plus à prendre une décision sans consulter la VAR. Parfois, je suis sûr que les arbitres, ils sont convaincus d'une chose, mais ils vont quand même faire appel à l'assistance vidéo pour être sûr de pas se planter. Et pourquoi je parle de ça par rapport à ce qu'on a vu en première ligue? Je pense qu'il y a pas mal de buts, je pense à celui de Wolverhampton, où l'arbitre avait envie de l'accorder. Mais il était quasiment, je pense que l'arbitre dans sa tête, il était sûr à 100% qu'il y avait pas hors-jeu, mais il s'est dit, oh putain, on sait jamais quoi. Ça vaut le coup quand même de dire qu'on sait pas et de demander à la VAR. Et c'est ça en fait le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas préparé les arbitres à mieux appréhender l'outil, et très radicalement, parce qu'il faut bien proposer des choses, si on doit garder la VAR, je pense qu'on devrait instaurer, comme c'est au tennis, où il y a un nombre de challenges par match. Je pense qu'on devrait limiter l'utilisation de la VAR à deux ou trois situations par match, et qu'on confie ça à l'entraîneur de chaque équipe. Je pense que c'est la meilleure des solutions, parce qu'on sait très bien, malheureusement, que la VAR, c'est irrémédiable et irréversible maintenant, même si c'est nul.
On va avancer tout à l'heure dans ce débat et parler peut-être un peu plus de ce que l'on peut changer, les améliorations de l'outil. Un dernier mot pour continuer d'en faire, non pas le procès, mais le bilan. En Angleterre, Alexandre Distel, tu connais parfaitement ce championnat que tu as couvert tout au long de la saison dernière. François, tu connais aussi la façon dont jouent les Anglais. C'est un jeu avec beaucoup de rythme, beaucoup d'envie, et cette VAR vient casser le rythme.
C'est Fast and Furious.
C'est encore moins dans l'essence de la façon dont les Anglais aiment le jeu. Complètement. Et puis surtout, enfin, faut pas oublier que l'utilisation du VAR, à la base, c'est en cas d'erreur manifeste. Est-ce que un hors-jeu d'une poignée vraiment de centimètres peut être considéré comme une erreur manifeste?
Alors voilà, c'est... Mes amis, puisqu'on est dans une émission qui parle de foot, je vais quand même vous rappeler rapidement la loi 11 du football. Un joueur se trouve en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, de son tronc ou de ses jambes, donc le pied ou un orteil, hein, ça fait partie de la jambe, ouais, et dans la moitié de terrain adverse ou plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. Ok, ce qui veut dire qu'on a assisté à une hypertrophie, non pas de l'interprétation, mais une hypertrophie, puisqu'il n'y a pas d'interprétation dans le hors-jeu, de la mise en place de la règle du hors-jeu avec, on l'a vu principalement ces derniers jours, à des centimètres. Et quand on est sur des centimètres...
Il y a eu 5 hors-jeu et 5 bonnes décisions qui ont été prises. Il faut le rappeler. Elles sont justes parce qu'effectivement,
juste à des centimètres ou
au nom de la loi, elles sont justes.
Attends, juste pression.
Alors, sur les centimètres.
Non, elles sont pas justes, on sait pas. Parce que ça tout dépend de quand t'as mis sur le ballon, sur le bouton.
J'y viens. C'est que quand tu es sur des centimètres à la vitesse où va ce jeu actuellement, et peut-être un peu plus vite en Angleterre qu'ailleurs, au moment où tu déclenches ta vérification et au moment où tu vois le hors-jeu, un centimètre, il peut y avoir un décalage entre le moment où le VAR va appuyer sur le bouton pour la vérification. Je rappelle que les arbitres, j'ai la chance quand même de bosser pas mal d'années avec eux à la Fédé, les arbitres expliquent que eux, c'est même pas forcément au visuel, c'est au niveau auditif, c'est aux beautés du ballon. D'accord ? Que le central ou bien l'arbitre de touche interprète la situation. On regarde la situation de hors-jeu. Donc on est sur du centimètre. Autre chose par rapport à l'Angleterre, on a 120 matchs, si je ne m'abuse pas, depuis le début de cette saison. Sur ces 120 matchs, aucun match n'a donné lieu à l'utilisation des moniteurs. Et Julien Laurens aussi en parlait la dernière fois avec nous. Alors, sur le hors-jeu, il n'y a pas besoin d'aller voir le moniteur, mais c'est pour vous dire la situation absolument délirante dans laquelle les arbitres anglais se sont mis avec l'utilisation de la VAR. Et leur responsable, Mike Riley, puisqu'il est sous les feux des projecteurs et sous les feux des critiques, du public, des joueurs, des propriétaires des clubs et également des médias, et il nous a expliqué une chose qui est assez fabuleuse ces derniers jours. En guise de réponse, il a dit « Écoutez, le monde est en train de s'adapter avec cet outil. Et puis nous, la Première Ligue, on essaie de s'adapter avec la Première Ligue. » Donc, quand on a des clubs anglais qui sont en Coupe d'Europe, ils ont une certaine utilisation de la VAR. Quand ils sont en Première Ligue, ils en ont presque une autre. Et enfin, mais ça ne vient pas des Anglais, c'est qu'il serait quand même question dans les... prochaine semaine ou les prochains mois, c'est que le board, donc qui avec la FIFA, qui partage la responsabilité des règles de ce jeu, amène, je parle au conditionnel, une nouvelle interprétation du hors-jeu, une nouvelle vision du hors-jeu qui ne serait plus un centimètre parce que c'est ton orteil qui est devant celui du dernier défenseur, non, mais que ce soit les pieds et seulement les pieds. Voilà, ce qui pourrait peut-être un peu faciliter les choses, parce qu'on a vu quand même des trucs assez délirants sur nos écrans de télévision.
Vous vous souvenez de cette consigne de début de saison 2014-2015, je dirais par là, où on a dit aux arbitres, dans le doute, s'il y a
bien
vraiment
sûr.
Pas grand-chose, place au jeu.
Je m'en souviens.
Donc ouais. L'un, si on dit ça,
place, enfin,
et qu'on installe la VAR, voilà, c'est complètement antinomique de dire ça. Et quelques
années plus tard, tout a changé, Timothée.
Et justement, et c'est là où le comportement des joueurs, où tu me demandais tout à l'heure, il change. C'est-à-dire qu'en 2014 ou en 2015, t'étais attaquant, tu faisais quoi? Tu sais quoi, là? De toute façon, là, je vais partir peut-être un quart de seconde avant. Parce que de toute façon, même si je suis un tout petit peu hors-jeu, je vais pas me faire prendre parce qu'il va laisser jouer. Alors que maintenant, t'es presque obligé, pour être sûr de ne pas être hors-jeu, t'adaptes ton temps d'appel par rapport à la passe, ainsi de suite, qui change tout.
J'allais justement me servir de ça, et c'est une passe décisive que tu me fais. Les attaquants vont peut-être prendre ce mètre de recul pour être tranquille vis-à-vis du VAR, sauf qu'on rappelle que le but, c'est de jouer au football avant toute chose, et deuxièmement, c'est d'avoir du spectacle. Si les attaquants commencent à prendre un mètre de retard, je peux me planter, mais a priori, il y aura un tout petit peu moins de buts.
Non, mais surtout que c'est déjà super dur de prendre à revers les défenses d'aujourd'hui. C'est tellement bien organisé que parfois, il faut être à la limite. Là, c'est sûr que tu coupes forcément.
C'est un peu moins dur de te prendre à revers, il paraît.
Ah, il est dur. Pierre est avec nous. Il a composé le 32-16 pour venir nous parler de ce sujet souvent urticant qui est le VAR. Pierre, comment vas-tu?
Bonsoir messieurs, je vais très bien, merci.
Supporter de Liverpool.
Oui.
Tu as du goût. On de ton avis sur le VAR, tu as vu comme nous le Boxing Day, on s'est régalé comme chaque année à cette saison.
Ah, j'ai pas vu le match hier parce que je suis abonné.
Il fallait voir celui-là.
Par rapport à
un autre sujet, il fallait voir le match contre les Wolves.
T'as vu les buts?
J'ai vu le but de Mané, après j'ai pas vu.
Pas vu le but refusé. Il y en a eu quatre autres avant. Il a eu le temps d'en voir. Pierre, quel est ton avis sur ce VAR?
Moi, je suis totalement contre le VAR dans le foot. Pour moi, le foot, c'est pas un sport à arbitrage vidéo. Voilà. Donc,
pourquoi?
Parce que c'est un sport qui est fluide, où il y a normalement pas d'arrêt de jeu. C'est un sport beaucoup moins heurté que le rugby, où dans le rugby, il y a des temps morts où on peut prendre le temps de regarder les vidéos. Dans le foot, pour moi, il n'y a pas de temps de regarder la vidéo. La balle, elle sort en touche, on joue. Elle sort en corner, on joue. Enfin, voilà. Pour moi, il ne doit pas y avoir de temps mort au foot. Et la vidéo, la VAR, et en Angleterre, ils vont pas voir les écrans, ça c'est peut-être une faute de leur part, ils vont pas voir les écrans, mais ça prend moins longtemps. En France, ils vont voir les écrans, ça prend trois quarts d'heure pour prendre une décision, il y a pénalty, il y a pas pénalty. On a l'impression que tous les arbitres, ils appellent Gary Bian pour savoir s'ils font pas une connerie.
Donc
il faut y arrêter. Bien sûr que je suis dans l'exagération,
ça
parce que
pas,
la VAR,
je l'entends.
C'est un truc qui exagère sur les fautes. Ça devait arrêter, la VAR, ça avait pour but au départ de moins d'injustice et d'arrêter les contestations. Ça fait tout l'inverse. Plus les arbitres utilisent la vidéo, plus ça gueule. Les entraîneurs, ils gueulent sur le bord, sur le quatrième arbitre. Les joueurs gueulent sur l'arbitre au milieu. Quand ils donnent une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans un sens ou dans l'autre, ça gueule quand même après. Donc, la VAR, c'est catastrophique.
Je trouve que ça gueule beaucoup en Angleterre. Ça gueule terriblement en Angleterre parce que on l'a dit, et tu nous as entendu le dire, il y a 120 matchs, pas une fois un arbitre a daigné se déplacer pour consulter. On ne parle pas des hors-jeux, on parle d'autres situations.
C'est peut-être une erreur.
Mais ça doit être la consigne. Oui. Ça doit, il l'assume très très bien, a priori.
Alexandre, en Angleterre, les fans ont peut-être pas le pouvoir, de contre-pouvoir dans les clubs à proprement parler, je veux dire auprès des décisionnaires de chaque club. Par contre, ils ont énormément de pouvoir parce qu'ils sont considérés comme des consommateurs de football. Et là, ils ont du pouvoir au sens large, c'est-à-dire que les spectateurs de foot ont du pouvoir vis-à-vis de la Ligue. Et on sent quand même que dans les stades et chez les téléspectateurs, le sondage de Lineker le prouvait, il y a un ras-le-bol. Là aussi, en Angleterre, ça risque d'être peut-être plus écouté que ça ne peut l'être en France.
Ah oui, complètement. Bah, là-bas, les fans, c'est vraiment, ils ont une proportion vraiment à part. C'est dans la beauté du football anglais. Voilà, ils ont leur mot à dire. Et clairement, ces supporters-là, ils sont hors d'eux de voir des décisions comme ça.
J'ai venir où? Sur le fait que des fans pourraient faire quoi, du lobbying pour qu'ils retirent la VAR de la
population? Non, peut-être pas, mais influer, dire attention, on s'en sert pas bien.
Bah, comme ce qu'on a en France, ceci dit, mais peut-être qu'en Angleterre, ils auront un peu plus de poids dans d'éventuelles modifications de la règle. C'est des clients.
Des fans.
Surtout sur Twitter.
Effectivement, on va continuer à discuter de cette assistance vidéo à l'arbitrage. Juste pour nourrir, messieurs, avant de faire une petite pause, juste pour nourrir votre réflexion, je voudrais vous donner l'avis d'un spécialiste.
Le football, à un moment donné, à un certain niveau de compétition, c'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
Voilà, je vous laisse mûrir cette réflexion de Francis Lalanne.
Lalanne, j'avais reconnu la main, presque.
Je vous laisse mûrir ça, et on revient dans un instant.
RMC, l'afterfoot, Timothée Mémon.
23h21, c'est l'after. On continue jusqu'à minuit. On va continuer à parler un peu du VAR. On fera également le quiz de l'after tout à l'heure à 23h43. On va essayer de jouer ensemble un petit peu, de mesurer nos connaissances en cette toute fin d'année. Ce sera d'ailleurs le dernier quiz de 2019. Vous avez intérêt à être brillants, messieurs. Et moi, je vais essayer d'être un peu meilleur que je le suis d'habitude à la mène de ce quiz. Je vous préviens, jusqu'à c'était pas bien, hein, jusqu'à
dans les règles, dans les règles là, tu nous as
embrouillé
3-4 fois là.
Justement,
les auditeurs qui nous aident à faire les dossiers alors qu'ils ont pas le droit de participer, Nico ni ta team.
J'ai conscience de ça et j'ai fait appel à un préparateur mental, donc normalement ça devrait mieux se passer.
Je crois que la meilleure anecdote qui illustre à quel point un préparateur mental ça sert à rien, c'est je crois que c'est passé récemment là, c'est Vincent Moscato qui explique que le préparateur, quand il a vu un préparateur mental. Allez sur YouTube, ça se trouve, c'est hilarant. Ça crevait de rire.
On ira voir ça, effectivement. On imagine effectivement qu'il a une certaine résilience à la préparation mentale.
Bah non, vu qu'il a fait la démarche d'y aller quand même.
Ouais. Non, mais je trouve ça intéressant, contrairement à ce que Jonathan dit, mais je trouve que c'est intéressant quand le joueur est vraiment demandeur. Parce que quand on avait avec Ludo, on avait reçu. Non, pardon, Pierre, l'ancien préparateur de l'OGC Nice. C'est vraiment intéressant la manière dont il expliquait son approche, alors que moi j'avais un a priori négatif, parce que, et qui nous l'a dit sur, dans l'émission ce soir, il y a quand même aussi pas mal de charlatans.
Rétablissons le service militaire et puis ça ira mieux. Il y aura plus de préparateur mental après.
Mais c'est autre chose.
Alors on va continuer à parler du VAR et de son utilisation. On a bien descendu le concept jusqu'à présent.
Juste un truc. Qui l'a fait son service militaire à part moi autour de cette table?
Bon, allez, on avance. Comment ça s'appelle la journée de?
La journée. Oh, non,
mais ça, c'est vrai. On avance. 96-02.
Mais ça n'existe plus le service militaire. Mais il y a d'autres choses à faire.
Donc parlons du VAR. On a eu quand même une annonce qui est importante. On se sert du VAR depuis un moment en France. Quand ça coince en Angleterre, ça semble faire quand même un tout petit peu plus de bruit, puisque Alexandre, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y aurait la possibilité d'un changement, ou en tout cas on est dans une vision peut-être un peu moins manichéenne de son utilisation.
Oui, voilà, bah, de toute façon, c'est pour reprendre un peu ce qu'a dit Jonathan sur l'erreur manifeste. Là, ça rejoint un peu les propos du secrétaire général de l'IFAB. Donc en fait, voilà, il voudrait que le VAR ne puisse intervenir qu'en cas, voilà, pour reprendre les mots, sur des situations seulement claires et évidentes. Donc c'est-à-dire que quand ça se joue sur une poignée de centimètres, laissez jouer. J'imagine que c'est leur réflexion, eux. Voilà, et c'est aussi, pour reprendre les propos du secrétaire général, ne pas devoir avoir besoin d'étudier 15 angles de caméras différentes, ce qui est actuellement fait sur les 5 derniers buts de la refusée pour leur jeu.
Mais l'IFAB, ça touche pas que l'Angleterre, attention.
Ah non, ça touche qui régit les règles du football
Mais en revanche, il réagit aux polémiques qui sont passées en Angleterre.
Ce que tu nous dis, c'est très mignon. Mais en fait, c'est totalement irréalisable. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que t'as le cul totalement entre deux chaises, et quand t'as le cul entre deux chaises, quand elle s'écarte, ça fait très mal. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, l'outil, une fois qu'il est là, tu pourras pas empêcher, sur n'importe quelle situation, les joueurs de mettre la pression à l'arbitre pour aller consulter la VAR. Ça va créer encore plus de polémiques, parce que si un arbitre dit « oui, ben là j'ai pris la VAR parce que je considérais que c'était un cas manifeste », le joueur ou l'entraîneur adverse qui est entre guillemets victime, et j'aime pas ce mot-là, qui se considère victime, lui dira « ben là, sur cette action-là, moi je trouve que c'est manifeste », etc. Et ça va donner lieu à encore plus de polémiques et ça va participer, encore plus creuser le fossé entre les arbitres et les joueurs. Donc,
mais il faut que
soit
vous sachiez,
tu l'as, soit tu l'as
Jonathan,
pas, quoi.
Jonathan,
quoi,
il faut que vous sachiez que dans les protocoles mis en place, en tout cas pour l'UEFA, sur ces compétitions, il est formellement pas interdit, mais presque, en tout cas fortement déconseillé, que tout membre d'un staff technique, entraîneur et joueur sur le banc aille perturber l'arbitre quand il le déranger quand il veut aller consulter le moniteur. C'est pas ça d'un carton jaune, voire si ça.
Ce qu'on dit, c'est que de vouloir limiter l'utilisation de la VAR, forcément ça c'est illusoire, parce que tous les joueurs ils diront ouais, mais là télé quoi.
Je pense qu'il y a un axe d'amélioration qui pourrait être important. Déjà, c'est avoir la connaissance des communications qu'il y a entre l'arbitre et ce qui se passe dans le quart, comme on dit, le quart de la VAR.
C'est-à-dire.
Si, décidément, on se rapproche de plus en plus de la NFL. Hein.
Comment tu vois que ça se traduire?
C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a eu un exemple ce week-end en Australie, justement, lors d'un match où la VAR, on a fait appel à la VAR et on a eu justement la retranscription des commentaires entre l'arbitre et ensuite et dans le quart. Et on peut s'apercevoir que le commentaire qui est fait dans le quart, il influence quand même forcément l'arbitre.
Et évidemment.
Si il y a quelque chose en disant juste, écoute, on t'invite à aller voir le moniteur et ensuite tu dis ce que t'en penses. Là, la décision est laissée à l'arbitre et bon, même déjà ça crée un doute chez lui d'aller voir le moniteur. Voilà.
T'as raison.
Mais ensuite, si on lui dit, regarde, va voir le moniteur parce que l'autre là, il a mis quand même un tacle sur le tibia d'un tel et ça vaut rouge. Là, forcément, quand tu vas voir le truc, tu dis, bah oui, non, mais c'est bon, en effet, il y a rouge.
On va aller plus loin. Parce que moi, ce que je voulais dire, c'est, tu m'as devancé, c'était que peut-être la solution, c'est que l'initiative de vouloir consulter la VAR ne vienne pas de l'arbitre qui est sur le terrain, mais des gens qui sont dans le camion. Mais encore, il faudrait encadrer ça. Et l'encadrement qui me semble être un bon compromis, ça serait de dire qu'en fait, les mecs, les gars dans le camion, ils n'ont pas plus de 10 secondes après la situation pour prévenir l'arbitre.
Bah, tu sais quoi, c'est ce qu'a proposé Alan Shearer, justement.
Ah bah voilà.
C'est que lui qui est pro-VAR commence un peu à changer d'avis et justement bah il a proposé cette idée là sur les actions litigieuses d'avoir un délai de 10 secondes pour prendre sa décision.
10 secondes il a dit aussi.
Ouais, 10 ouais, secondes. Et si au bout de 10 secondes l'arbitre n'est par exemple sur un jeu, n'est pas certain qu'il est hors jeu, ben alors on laisse jouer et on valide le but.
On accueille Andrea qui nous a appelé au 32-16, qui est supporter de Tottenham. Salut Andrea, comment ça va?
Bonsoir messieurs, ça va super, merci.
Salut Andrea.
Bonsoir. Alors Andrea, ta position sur ce sujet épineux du VAR?
Bah écoutez, premièrement, en tant que supporter, je vais pas être forcément pour ou contre, parce que d'un week-end à l'autre, ça peut avoir du bon comme du mauvais concernant le résultat.
Mais en tant qu'amoureux du foot, Andrea.
Il y a plusieurs choses, pour moi, qui peuvent, entre guillemets, un petit peu l'améliorer. C'est qu'il faut pas oublier qu'avant la VAR, et toujours actuellement, il y a un corps arbitral sur le terrain, il y a un arbitre, il y a des arbitres de touche. Ils étaient là avant la VAR, ils sont toujours là actuellement. J'en viens un petit peu à me demander du coup à quoi servent les arbitres de touche, sachant que toutes les actions de but, etc., sont regardées un petit peu, scrutées à la loupe pour voir s'il y a un jeu ou pas. Du coup, au final, la décision de l'arbitre de touche de lever son drapeau ou non, n'est plus forcément si importante. Donc, il faut pas oublier que ces mecs-là, c'est un travail, qu'ils sont quand même sur le terrain. Donc, ça va être très difficile de changer maintenant que ça a été mis en place, et ça me fait rire parce que c'est un peu comme quand l'Angleterre est sortie de l'Europe, ils étaient tous pour et une fois que c'était fait, ils sont tous contre. Donc c'est assez marrant. Pour moi, voilà, c'est de réduire ce temps d'analyse sur les situations où on parle de centimètres, de se référer à la première décision, donc qui est but ou hors jeu. De mettre un temps limité, c'est-à-dire 30 secondes, 45 secondes d'analyse.
C'est encore trop long. C'est même 30 secondes, c'est trop long.
Ah, mais c'est
aller encore plus vite.
Bah, dans ce cas-là, le réduire. Mais surtout pour les personnes qui sont aussi au stade, qui se déplacent et qui vont au stade, justement dans la continuité d'un but, de la célébration, de pouvoir réduire ce temps qui même 15 secondes pour un supporter paraît comme 3 minutes, 5 minutes.
Mais tu te rends compte si la décision est prise au bout de 15 secondes, parce que là tu vois déjà des situations super claires, hein, où il n'y a pas de doute, ils mettent 2 minutes déjà avant de donner, la raison pour laquelle ils ont refusé le but, ainsi de suite. Mais t'imagines au bout de 10 secondes, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps de mettre les images, et qu'en plus de ça ils se plantent, et que derrière t'as la télé en live et qui montre qu'ils se sont plantés. C'est encore pire.
Tant pis, il se plante, ça fait partie de l'histoire du foot de se planter. On s'en tape.
Donc en gros, tu passes encore plus pour un coup quand tu plantes avec la vidéo.
Mais bien sûr Damien, mais le problème c'est que dans un monde idéal, je pense qu'on est tous autour de la table, on serait d'accord qu'il faudrait tout simplement le foutre à la poubelle ce truc.
Moi j'étais maintenant, pas d'accord au départ et je me suis rallié à cette opinion désormais.
Bah voilà, maintenant que ça l'y est, par contre on sait très bien que c'est trop tard, qu'on va pas revenir en arrière.
Oui, donc vous reviendrez.
Donc il faut trouver des aménagements. Après, un des aménagements aussi qu'on peut envisager, là pour le cas spécifique des hors-jeux, moi je suis un peu un gros con, je suis un peu un réac et j'aime pas trop le progrès technique. Mais vous ne me dites pas que c'est pas possible, avec l'intelligence artificielle ou les puces ou les RFID ou je sais pas quoi là, de mettre une puce dans le ballon et de faire en sorte que d'améliorer technologiquement le système de la VAR pour être sûr qu'un joueur est hors jeu ou pas. Avec une puce dans le ballon, avec des lignes des capteurs autour des terrains qui soient mieux quadrillés, et pour ne plus dépendre du moment où le mec va appuyer sur cette putain de touche pour déclencher sa ligne de hors-jeu.
Bah, déjà que je crois qu'on en parlait dans une dernière émission, on est déjà sur un outil inégalitaire à l'échelle du football mondial, puisqu'il n'y a que les riches dont nous faisons partie qui pouvons l'utiliser. Si on faisait ce que tu dis, Jonathan, outre l'usine à gaz qu'il faudrait mettre en place, moi j'ai eu la chance de participer à des tests de VAR depuis de très 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 longues années, et puis là récemment quand je bosse sur des matchs de Coupe d'Europe, c'est une usine à gaz. Ok, elle est bien montée, mais c'est une usine à gaz. Déjà si on la complique, la technologie, il faudrait un temps pour qu'elle s'adapte, parce que quand tu fais ça pour la Ligue des Champions sur 32 stades, que tu sois en Azerbaïdjan ou en Angleterre, c'est pas exactement la même chose. Moi, il y a une chose pour revenir au cœur du sujet, parce que les arbitres se sont quand même beaucoup défaussés sur la VAR, et on l'a particulièrement vu cette année avec l'aménagement des nouvelles règles qui ont été votées en mars dernier et mises en place au 1er juin 2019, c'est de donner, et Jonathan l'a évoqué, mais j'insiste là-dessus, c'est de donner non plus, c'est de déplacer en fait l'utilisation. De donner aux entraîneurs la possibilité d'avoir recours peut-être une ou deux fois maximum par mi-temps ou dans un match à utilisation de la VAR. Et s'ils ne réussissent pas et s'ils n'ont pas par rapport à un arbitre assistant qui serait dans une situation dans le stade qui lui avec un moniteur qui lui permettrait de suivre le match, eh bien s'ils ne l'utilisent pas parce qu'ils ont un doute, eh ben tant pis. Tant pis. Le doute va en faveur du jeu.
Et en plus, ça met
et ça responsabilise. Et ça serrait dessus.
Ça responsabilise encore plus l'entraîneur, ce qui n'est pas pour me déplaire.
Mais sur fait, ça déresponsabilise pas l'arbitre. Attention, quand tu utilises le mot responsabiliser, ça ne déresponsabilise pas l'arbitre, mais tu déplaces le curseur de la prise de décision parce que Damien a dit un truc juste et qui se vérifie, mais ils ont du mal à se l'avouer, c'est que quand tu es la centrale et que tu es appelé par le VAR pour vérifier quelque chose, quand le VAR t'appelle, implicitement, il te dit
tout de suite,
tu t'es trompé.
Mais oui.
Et donc c'est humain quand tu t'es trompé de vouloir corriger ton erreur. Et ça se vérifie 8 fois sur 10 quand ils sont quand ils vont consulter le moniteur, ce qu'ils voient pas en Angleterre, mais ça se voit ailleurs. Ils reviennent sur leur décision.
Andrea, tu avais pu aller au bout de ta démonstration.
Bah écoutez, oui, parce qu'au final, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, où on en est, il y a très peu de choses qui peuvent être faites pour changer la VAR et pour surtout pour l'améliorer. Ouais. Donc c'est plutôt de l'assimiler, d'avancer, de se dire que maintenant elle est là et que malheureusement c'est comme ça.
Merci beaucoup Andréa d'avoir été avec nous au 32-16. On accueille Quentin, s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là, puisque Quentin, tu as...
Dernier auditeur de l'année.
Tu as entendu...
Ah non, il va y avoir le quiz.
Il va y avoir le quiz, non, mais c'était plus pour dire que face à ce déferlement de critiques, Quentin voudrait proposer un avis un peu plus posé et laisser une chance au produit.
Oui, je pense que c'est surtout un problème de mentalité, la VAR. Enfin, le VAR, pardon. À mon sens, franchement, le VAR, c'est ce que c'est. Il faut ce qu'il fait. On aura toujours besoin, de toute façon, d'un humain derrière tout ça. Le football évolue et je pense qu'on perd un peu trop de temps à essayer de chercher justement, enfin, remettre en cause ce système. On a trop de, on peut plus faire machine arrière pour moi et il faut plutôt réfléchir à pas forcément remettre en cause, mais comment l'améliorer en effet. Et je pense qu'il y a certains arguments qui sont bons à prendre, mais notamment. Il faut aussi s'identifier potentiellement ou regarder un petit peu comment se passent ces éléments-là dans d'autres sports. Je pense, alors il y a le rugby, on s'identifie aussi beaucoup au rugby par rapport à ça, mais moi je partirais plutôt sur le principe de la NFL aujourd'hui et justement l'argument qui a été évoqué, et je suis totalement d'accord avec ça, c'est on a la possibilité pour un entraîneur de challenger par mi-temps ou par quart-temps quand il considère qu'une décision arbitrale n'a pas été en sa faveur et qu'il potentiellement peut être remise en cause et on est limité, c'est-à-dire que voilà, on a un temps mort qui se met en place par rapport à ce challenge et on prend bien le temps d'analyser les éléments avec ce qu'on a, avec les vidéos qu'il faut et une décision est prise. Et encore une fois, même avec ça, on voit que ces éléments-là sont pas forcément bons, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui peuvent être toujours déficitaires, enfin ou pas forcément favorables et pour moi, ça, c'est un peu philosophique, mais ça va réduire les aberrations, mais ça ne va pas enlever les erreurs. Et de toute façon, il y en aura toujours. On aura toujours besoin d'équité, on aura toujours voilà, un pénalty qui a été accordé d'un côté. Ben, forcément, un arbitre va essayer de compenser. Et c'est, voilà, je ne remets pas en cause non plus le corps arbitral, mais c'est humain et c'est comme ça. Et il faut s'y faire, il faut évoluer avec. Et pour moi, je ne suis pas de
j'y pas mal. C'est un discours assez sage.
Bah, après, l'utilisation de la VAR, qu'est-ce que c'est? C'est de l'aide à l'arbitrage, c'est ça.
Oui,
c'est vendu comme ça.
Bien, c'est vendu, exactement.
C'est vendu comme ça.
Assistante.
C'est-à-dire que quand il y a une erreur sur le terrain, on est d'accord que généralement c'est le camion qui appelle l'arbitre pour dire hop, reviens là ici, il s'est peut-être passé quelque chose. On est d'accord.
Oui, oui.
Ce n'est pas l'arbitre qui demande de l'aide à la vidéo.
Il peut le faire.
Il peut le faire. Mais c'est, aujourd'hui, c'est pas dans ce sens-là. C'est le sens camion arbitre et non pas arbitre camion.
Oui,
voilà aujourd'hui où ça pourrait peut-être évoluer que la VAR intervienne au moment où l'arbitre le demande, tout simplement. Ce serait peut-être mieux.
Messieurs, puisque la pilule a du mal à passer avec le VAR,
suppositoire même pour certains.
On parlait tout à l'heure du fonctionnement à la NFL. À la NFL, quand une décision est prise, l'arbitre s'adresse au public avec il a un micro. On entend dans le stade et on entend à la télé l'explication de la décision. Est-ce que une décision.
On
va se marrer.
Non, mais tu imagines dans les matchs internationaux où l'arbitre ne parle pas forcément la langue du pays dans lequel il officie et où le public n'est pas.
La langue officielle de l'escrime, c'est le français. La langue officielle du football, c'est l'anglais, non?
Ouais, non, mais moi, quand je vais bosser sur des matchs en Espagne, j'ai pas à Valence, j'ai pas 40 000 ou 50 000 personnes.
Moi, je parlais de pédagogie, en fait.
On prend des exemples sur les Américains, mais il faut arrêter à un moment donné. On n'est pas plus con qu'eux. Et les Américains, ils font tout de manière fermée. Dans une ligue fermée, dans des ligues fermées, il n'y a pas de rétrogradation, il n'y a pas d'accession. Oui, c'est dans la consanguinité totale, les Américains. On peut les suivre sur certaines choses, mais pas sur tout non plus. Après, moi, oui, ok, je suis d'accord pour que ce soit les entraîneurs qui fassent appel, à la VAR. Il faut savoir, de toute façon, la VAR humaine, elle a existé dans d'autres championnats parce que la VAR, en fait, c'était le pitch reporter. Quoi que j'entends Laurent Paganelli, qui est dans une chaîne concurrente, et nous, on fait du média aussi, d'accord, qui, je crois qu'il est contre la VAR, mais combien de fois il a été apostrophé hors micro, micro coupé par les entraîneurs, il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu, et puis c'était le réalisateur qui disait dans l'oreillette à Paganelli ou à d'autres, hein, je cite Paganelli, je l'aime bien en plus, mais à d'autres, oui, non, il y a hors-jeu, oui, il n'y a pas hors-jeu, il le disait au coach, et après le coach il a insulté le quatrième arbitre, et après il en parlait en conférence de presse.
Messieurs, on a bien fait le tour du sujet de la VAR, j'aurais une dernière remarque par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'aperçoit que l'IFAB réagit après deux journées de Boxing Day particulièrement intenses. Pourtant, pas la première fois que dans le monde du football, la VAR est critiquée. Est-ce que les Anglais ont plus de poids que n'importe qui auprès des instances internationales et est-ce que eux peuvent faire pencher la balance?
C'est la remarque que je voulais faire pour conclure, c'est que ça démontre bien toute la surpuissance financière de la Première Ligue, tout simplement.
Ouais, mais tu sais, c'est une surpuissance financière qui se limite à leur nombril, hein. C'est le championnat le mieux vendu dans le monde, mais à l'échelle de l'IFAB, alors même si ce sont les quatre, oui, puisque l'Irlande est une fédération qui ne compte pas parmi les fédérations britanniques, mais les quatre fédérations plus la FIFA. Non, mais comme le dit Mike Riley, il a accordé une interview au New York Times, il dit presque, moi je m'en fous de ce que l'IFAB peut faire au niveau mondial. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la Première Ligue. Et basta cosy.
Mais c'est le championnat. Mais c'est le championnat le plus regardé. Il s'est vendu dans le monde entier.
C'est le championnat.
Donc c'est normal. C'est eux qui ont le plus d'influence sur ce qui peut éventuellement se passer. Vu qu'une erreur se passe dans notre championnat de Ligue 1 qu'on aime tous que dans un Angers-Reims, ça a forcément moins d'impact que si c'est lors du Boxing Day.
Je vais être plus précis. La FIFA, donc qui siège avec l'IFAB, a fait une communication ces derniers jours où elle n'a pas cité la Première Ligue, mais on a compris que les regards se dirigeaient vers elle, où elle a expliqué que les décisions qui sont prises à l'occasion de l'utilisation de la VAR doivent être prises en consultant les moniteurs. Je pense que aussi une chose qui leur hérisse le poil, c'est de voir que pas une seule fois, ces moniteurs qui sont disséminés autour du terrain n'ont été consultés depuis donc 120 matchs début de saison en Première Ligue cette saison.
Je tiens à dire que c'est pas beau ce qu'il fait Damien là. On l'a totalement perdu, il est en train de réviser son quiz, il est déjà concentré, il s'est mis en mode
professionnel.
J'avais le sujet.
Alors,
pas besoin de ça.
Il est en train de réviser. Tu pas besoin de ça, t'es arrivé avec des notes.
Jonathan Bacardi, c'est l'arbitre VAR de Damien Perrier. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous et d'avoir apporté un peu de sagesse dans cette fin d'émission. Merci, Quentin.
Merci à vous, c'était un plaisir. Bon, Lyon.
Très belle année.
Merci.
2020. On va également remercier Alexandre Distel, dont c'était la première en radio. Elle fut brillante.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Alexandre, d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté le mercato et cette actualité.
C'est presque VAR.
On revient dans quelques instants pour le tout dernier quiz de l'année 2019. Vous l'avez compris, nos consultants sont chauds bouillants, ils sont en train de fourbir leurs armes pour préparer ce quiz. Vous nous appelez au 32-16 pour participer. A tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Timothée Mémon.
23 3h43, c'est la dernière ligne droite de l'After version 2019 avec le quiz à venir. Évidemment, vous nous avez rejoint pour jouer avec nous au 32-16. On va également en profiter de cette fin d'année pour remercier Nicolas Ledru, le producteur de cette émission, de nous avoir aidé à la préparer ces dernières semaines. On va accueillir donc tout de suite Aïssa, 35 ans. Bonsoir Aïssa.
Allô.
Ouais,
allô.
Salut.
Oui, bonsoir.
Ça va,
salut,
Aïssa.
Salut Aïssa.
Ouais, nickel, hein, meilleur vœu à tous.
Toi aussi, mon pote.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aïssa?
Bah, directeur d'accueil de loisirs pour des gamins.
D'accord.
Nickel.
Parfait. Félicitations. Tu as quel âge?
34. Je vais aller vieillir un petit peu. Hein.
Tu es supporter de quel club?
Comment?
Tu es supporter de quel club?
Ah, Paname. Hein.
Paris Saint-Germain. Fabien,
comme M. Manardo.
On a trouvé ton némésis, on a trouvé ton adversaire idéal. C'est Fabien, il est supporter de l'OM.
Oui, bonsoir.
Salut Fabien.
Fabien.
Sur
Fabien.
Meilleur vœu également.
Merci beaucoup.
Bonsoir Fabien.
Fabien, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Moi, je suis dessinateur industriel.
Dessinateur industriel. Eh ben, chapeau messieurs. Vous avez tous les deux de très beaux métiers. Tu es de Montélimar, c'est ça?
C'est ça. C'est ça.
Ah, bah, où j'ai fait mon service militaire, parce que je suis le seul à avoir fait, mais je le rappelle. J'étais en février, ça pèle, hein, Montélimar, hein, l'hiver. Hein.
Ah oui.
Il y a une Mistral qui commence aussi un peu par là, c'est
la Tramontane. Messieurs, on va donc vous demander, tu as quel âge, Fabien?
35.
35, donc tu es le plus âgé des deux. Fabien, je vais te laisser choisir avec qui souhaites-tu jouer, François Manardo, Damien Perrinel, Jonathan Macardy.
Toi,
Damien.
Ce sera donc Fabien et Damien.
Ça marche, Fabien.
Aïssa, François Manardo ou Jonathan Macardy?
Macardy.
Allez hop.
Ça roule. Je suis pas en forme, mon pote. Hein. Va falloir que tu sois bon. Hein.
Eh bah écoute.
J'ai deux de tension là.
Et donc, il fera cavalier seul. François Manardo.
Oui. Seul.
Alors, on va débuter tout de suite avec la première question. Je vous rappelle, chers auditeurs, de bien donner votre nom avant de répondre. Sinon, je ne saurais déterminer lequel de vous deux a été le brillant gagnant de la question.
C'est pas Fanny, François. Hein.
Bah, écoute, venir, là. Je te dis, l'andropause, là, c'est terrible. Tu bouges un coup. Moi.
Depuis l'arrivée de Dimitri Ribolovlev, combien d'entraîneurs différents
7, 4,
sont succédés? Fabien?
Fabien, 3.
Non,
4
sont succédés.
Aïssa.
2.
2.
5, Manardo, me dit-on dans l'oreillette.
Mais non, c'est moi, non,
c'est
qui l'ai
moi
dit 5,
il a dit
4. Ah, et en plus, il est fair play.
Non,
deux.
Je suis honnête.
Eh ben, Jonathan, c'est Jonathan. C'est Jonathan qui a gagné.
Non, je déteste gagnant. Merci, je répète ça à mon
fils. C'est tout à ton honneur.
Jonathan et Aïssa, le premier point a été marqué. Et je salue.
Je salue. Tu veux faire du flamenco?
Je salue d'un côté le fair play de François Manardo. Et je salue de l'autre la mauvaise foi de Damien Perrinel qui a dit l'autre jour, c'est pas avec le fair play qu'on gagne.
Et puis il a quand même dit que c'était lui qui avait dit 5 quand il a dit 7 et 6, quoi.
Non, là, j'ai dit 4, 7 et le 5, je pensais l'avoir dit. Mais bon, vas-y, c'est pas grave.
Alors, qui est actuellement l'entraîneur du leader de Bundesliga?
Nagelsmann.
Un point pour Damien. Un point pour Damien, il a été extrêmement rapide. Wow. Chers auditeurs, je vais vous demander de faire silence pendant quelques instants puisque vous allez devoir laisser à vos consultants respectifs le choix à venir. C'est une enchère. Monaco a été champion de France en 2016-2017. Citez-moi chacun votre tour. Attends, c'est une enchère ou c'est un kiki crack? Ah, c'est une enchère. Donc, c'est pas chacun votre tour. Vous allez devoir me dire combien vous pouvez me donner de joueurs ayant disputé au moins une minute en Ligue 1 lors de cette saison. Donc, Monaco champion de France 2016-2017. Il y en a 30 au total. Messieurs, on va commencer avec Damien. Combien tu penses pouvoir m'en citer?
Ah, faut.
C'est une enchère.
Ah, c'est enchère. Bon, je partirai 7.
7 pour Damien. François?
11.
11 pour François.
12.
12 pour Jonathan.
13,
qui dit mieux?
Oh putain.
On en aura entendu des faces volants, on a beaucoup 14. Entendu ce soir. Je vais vous demander de vous calmer un
14.
Peu.
14.
14. Jonathan?
Je laisse.
Jonathan laisse. Damien? C'est pour 3 points qui vont à l'équipe adverse en cas de défaite.
Attends, tu as dit qu'ils ont joué au moins une minute?
Oui.
Au moins une minute. Oui. Il y a 30 joueurs.
Ouais, je le laisse.
Alors, 14 pour François Manardeau. François, je t'écoute. Merci de les citer et de me laisser le temps de les rayer entre temps. Je t'écoute.
Alors,
Sidibé.
C'est bon.
Ok, Germain.
C'est bon.
C'est bon.
Subasic.
C'est bon.
Fabiano. Luis Fabiano. Ah.
Non.
Non, c'est pas bon.
Fabinho.
Ah ben oui, mais.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Il a dit Fabiano, mon. Fabiano !
Il a dit Fabiano, c'est une question de prononciation.
Non, Fabiano et Fabinho.
Le joueur de Liverpool.
Fabiano, t'as dit.
Ouais.
Et Fabinho.
Et après, il a dit Luis Fabiano. Et après, il a dit
Luis Fabiano. De FC Séville.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Je te laisse avancer.
Mbappé.
Je te laisse avancer. Mbappé. C'est.
Joueur actuellement de Liverpool. Pas la Mbappé, Fabinho. Mbappé. Falcao.
C'est bon.
Glick.
C'est bon.
Jemerson.
C'est bon.
Moutinho.
C'est bon.
Bernardo Silva.
C'est bon.
Thomas Lemar.
C'est bon.
Benjamin Mendy.
C'est évidemment bon.
Bosquilla.
C'est bon aussi.
Bah, je pense que j'avais 14 là, non ? Qui j'ai oublié ? Subasic, je vous l'ai dit. Germain. Ouais.
Lemar, Silva. Redonne-moi ce que t'as donné.
Il y en a 14.
Fabinho, Mbappé, Falcao, Glick, Jemerson, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Benjamin Mendy, Subasic, Germain, Bosquilla, Sidibé.
14, c'est bon.
Ouais.
Bosquilla, c'est bon.
Félicitations.
Ouais, Bosquilla, il marque même cette saison avant de se faire les croisés.
Bon.
Oui, Bakayoko. Ouais.
Bakayoko. Bravo. Et 3 points pour François Manardeau. Félicitations. Il y avait également Badia Silé, Desantis, Tisserand. Oui, messieurs, dames. Corentin Jean.
Corentin Jean. Il joue une mi-temps, je crois.
3 points donc pour François qui mène 3. 1 point pour l'équipe Fabien Damien. 1 point pour l'équipe Aïssa Macardi. Attention, les auditeurs, vous rejouez à nouveau et vous donnez évidemment votre prénom avant de donner la réponse. Quel est le nom du club qui va affronter le Paris Saint-Germain en Coupe de France ?
Aïssa Dortmund.
Montlhéry.
Bien joué, Damien. La question, c'était en Coupe de France. Faut écouter la question. C'était quel est le nom du club qui va affronter le PSG en Coupe de France ? Et c'est bel et bien Linas Montlhéry. Effectivement, 1 point pour l'équipe de Damien. Alors attention, messieurs, c'est un kick-away ici. Je vous donne en l'occurrence 5 clubs et vous devez me dire quel joueur a joué dans ces 5 clubs. Hambourg, Stoke City,
Van der Vaart,
Nuremberg, Schalke et le Paris Saint-Germain.
Draxler.
Draxler.
Non.
Choupo-Moting.
Non. Oui.
Ah, bien vu.
Choupo-Moting, il est là. Il est là, Damien. Ça fait 3-3 entre Damien et François. Un point pour l'équipe Aïssa, Jonathan, Macardi. Un autre kick-away ici, messieurs. Hambourg, Manchester United, le PSV Eindhoven, le Real Madrid.
Le Van der Vaart.
Malaga.
Unterlar.
Non.
Van Nistelrooy.
Bien joué, Jonathan. Effectivement, il y avait un. J'ai failli vous donner l'indice, vous étiez dans la bonne nationalité, mais c'est Ruud van Nistelrooy qui a joué pour Hambourg, Manchester United, Eindhoven, le Real Madrid et Malaga. Qui a entraîné ici ? Même concept, pas la peine de l'expliquer. Les auditeurs, vous n'hésitez pas à vous donner votre prénom. Lens.
J'entends très très mal. Hein.
Alors, je vais parler plus fort ou alors tu changes de téléphone ?
Ouais, temps, mais là. Je pense à un bête de téléphone.
Allez. Alors, Lens, Guingamp.
Cambouré.
Ouais.
Bravo. Bravo pour Jonathan Macardi. Ce quiz de fin 2019 est extrêmement serré. Trois partout.
J'ai éclaté, Aïssa, ce soir.
Trois partout. François, Damien et Fabien, Aïssa et Jonathan. Attention, maintenant, c'est un kiki crack. Chacun à votre tour. Et les auditeurs jouent. Vous devez me citer un par un.
Joue ou pas ?
Il ne joue pas.
Donc,
Ouais, je suis pas bon. Je suis pas fait pour ça. C'est comme ça.
Vas-y, je vais faire
des afters sans quiz. Voilà. Alors, messieurs, autour de cette table, c'est un kiki crack. Vous devez me citer. C'est pas très compliqué, mais tous, un par un, les clubs de Liga.
De Liga ?
De Liga.
De Liga.
De Liga espagnole.
On l'a pas déjà fait, cette horreur-là ?
Ah, bah, je crois que ça a déjà été fait, mais il va falloir le refaire. On va s'y recoller. Je vous laisse deux petites secondes.
Non, vas-y, on lance tout de suite. Qui commence ?
Alors, on va commencer avec le plus jeune d'entre vous.
C'est moi, alors.
C'est Jonathan.
Barça.
C'est bon.
Real.
C'est bon.
Valence.
C'est bon. Jonathan.
Atlético Madrid.
C'est bon. Damien.
FC Séville.
Ça marche.
Athletic Bilbao.
Ça marche.
FC le Betis Séville.
C'est bon. Damien.
La Real Sociedad.
C'est bon.
Celta Vigo.
C'est bon.
Bah oui.
Oui, c'est bon.
Bah oui, oui, oui.
À moi.
À toi.
Grenade.
C'est bon.
Espagnol-Barcelone.
Espagnol-Barcelone, c'est bon.
Eibar.
C'est bon. Jonathan.
J'aime pas le... Levante.
Oui.
C'est bon.
Ouais.
Recreativo Huelva.
En D1, eux.
Et non.
Bah non.
Et non. Non, si, c'est bon.
Ah, c'est bon.
Non. J'ai eu un saut. C'est Nicolas Ledru qui m'a fait une petite farce. Ça ne marche
en plus,
pas.
J'en ai tellement d'autres, quoi. Putain.
Tu sors. François Manardo.
Oui, tu l'as cité.
Il en reste 7.
Tu l'as cité, mais ça fait beaucoup, 7, pour ne pas se tromper.
Ça va commencer à urger.
Real Mallorca.
Real Mallorca. Mallorca, c'est bon.
Ah ouais.
Jonathan.
Putain.
J'ai dit qu'on arrêtait avec les gros mots.
5. 4.
Je joue pas sur moi, ça marche pas.
3. 2.
Je sais, j'ai pas.
Il n'a pas. Il reste. Manardo, François Manardo doit nous en donner. Hein. C'est bien. T'as vu, quand on me donne une consigne, je la répète bêtement, donc je t'appelle par ton nom. Hey, Manardo.
Eh non, mais.
Le décompte.
Sporting.
Par Damien Pirinel.
Ah, Sporting Giron, non.
5.
4. Non, je l'ai dit.
Riron.
Riron, non.
Non. Et non. Et non, il vous restait. Pardon ?
Villarreal ?
Ah, il restait Villarreal.
Ah putain, qu'on est con.
Bah oui, Villarreal.
Rétafé.
Je suis jamais.
Avec Valence en plus.
Quelle bande de.
Bah oui.
Osasuna, Alaves, Leganés.
Oh, Villarreal.
Ouais, on est saut.
Et bah ça fait des points pour personne. Tout va donc se jouer sur la dernière question. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Un quiz qui se finit sur la dernière question. Il y a 3 pour François, 3 allez, pour Fabien et Damien, 3 pour Aïssa et Jonathan Macardier. Il s'agit d'une enchère. Je sais que vous n'aimez pas ça, messieurs. Il s'agit d'une enchère. Désolé, chers auditeurs, vous n'allez pas pouvoir vous mêler à la bagarre. Mais l'un de vos consultants va l'emporter. On rappelle que ce quiz efface tous ceux de l'année 2019. Vous serez sacrés champions.
Ah bon,
qu'est-ce
qu'on gagne ? Non, mais non,
si, qu'est-ce qu'on gagne ? Et tant pis pour les absents.
D'accord.
décision de ma part. Une enchère donc. Combien pouvez-vous me citer d'entraîneurs du FC Nantes ? Dans l'histoire évidemment du FC Nantes. Je suis un petit peu surpris qu'il y en ait si peu sur ma feuille. J'espère que Nicolas Ledru a bien travaillé. Sinon, ce sera de sa faute et il sera nommé officiellement pompe de l'année 2019. Messieurs, c'est une enchère. On va commencer cette fois avec le doyen François Manardo.
Six
pour François Manardo. Jonathan.
Il fera mieux que moi, hein, facile.
7. Damien.
8.
François.
Pas mieux.
Pas mieux pour François, qui laisse le tacticien. Jonathan.
Oh, 9.
9 pour Jonathan. Est-ce qu'il y aura 10 à ma gauche pour Damien ? Allez. Réponse.
Je dis non.
Ah, il dit non.
Ah, mais j'ai bravo, mais j'ai bluffé.
Alors attends, moi je dis 6.
Ah non, mais non, 8. Mais trop tard.
Moi j'ai 8.
Moi je vais vous dire. Non, mais j'ai bluffé.
J'en ai pas 10.
J'ai bluffé. J'ai bluffé. J'ai Vaillé de Gourcuve, Contessao, Cardozo, Derzac, Denouac, et après je sèche.
Bah, ouais.
J'ai bluffé comme un salopard là.
Ça fait 3 points donc pour l'équipe.
Damien.
Fabien, Et Damien, 3 points pour l'équipe François.
Suodo, Arribas.
Je vais vous poser une question pour vous départager, pour gagner le quiz de l'année. Entre Damien et François, le champion de France 1981.
Et Saint-Etienne.
Oui.
Mais oui.
La victoire de François. Résultat, aucun de nos deux auditeurs a gagné. Aïssa, Fabien. Aïssa, Fabien, vous êtes avec nous.
C'est nul.
Moi, je démarre.
Aïssa, Fabien, on vous souhaite une très belle année. Vu qu'aucun de vous deux a gagné, eh ben, vous avez gagné tous les deux. Vous partez avec un t-shirt de l'After. Merci, messieurs. Bravo, François Bardot. Sacré champion 2019 des quiz de l'After. Félicitations, messieurs. On se retrouve très vite.
Bonne fin d'année à tous.
On vous souhaite une très belle fin d'année 2019 et une belle année 2020. Et n'oubliez pas ce que disait Bill Shankly, le football, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only, terms and conditions apply.